Pauline Cucciano, Le Porphyre et l'Albâtre. Chapitre 18, Jeunesse dorée. Gretel était endormie et la fenêtre ouvragée l'habillait d'une dentelle de lumière et d'ombre. Ses cheveux étaient dénoués et cachaient en partie son visage. Et les contours de son corps nu se détachaient, avec une netteté singulière, dans la clarté incertaine du petit matin. Artus la regardait, depuis si longtemps qu'il avait suivi toutes les pâleurs de l'aube, et le flamboiement du soleil levant, qui léchait sa chair paisible de ses rayons, l'emplissait maintenant d'une émotion ineffable. La vie était là. Évidente comme la lumière, troublante comme la chair, paisible comme le monde, fragile comme un instant. Artus était tout entier resserré autour de ce miracle intérieur qui l'éblouissait et l'animait d'une force décuplée. Dans son exaltation fiévreuse, il n'avait dormi que par intermittence et s'était réveillé en sursaut en plein milieu d'un rêve où il voyait Gretel flottant au milieu d'un ciel nocturne, ses cheveux agités par le vent aérien. Elle le fixait et prononçait un discours dont il ne se souvenait pas, mais dont les derniers mots étaient « dans la simple nudité de vivre ». Cette expression l'avait frappée à son réveil, et elle trottait dans sa tête depuis tout à l'heure, le poursuivant à la manière d'un dit essentiel. Bientôt la jeune fille allait s'éveiller, et le bonheur d'être ensemble submergerait cette sensation plus profonde, plus intime qu'il éprouvait maintenant. Le sens de l'existence tout entière lui avait été dévoilé, et il le contemplait, éperdu de reconnaissance. Depuis 2 jours, il s'était octroyé ce parfait repos de l'âme, si parfaitement ancré dans l'instant présent, que l'avenir, même proche, lui paraissait appartenir à un autre univers. Il avait déposé son fardeau, et renoncé à suivre Nox dans ses orgies bruyantes et ses jeux violents. Il avait accepté ses journées enchantées, semblables à des jardins suspendus, où nul autre que Gretel ne lui faisait face, et où leur amour recréait un monde. Après tout, il ne connaissait que trop bien son œuvre, et il avait besoin de jouir, fût-ce un court moment, avant de l'affronter. Cela lui semblait sage, et pas plus dangereux que le reste. Tout à coup, un bruit de pas le tira de sa contemplation, et provoqua un mouvement de Gretel dans son sommeil. « Artus !» chuchotait une voix affolée. Artus se leva, se ceignit d'un peigne et s'avança vers la porte. C'était Tibère. « Nox a une crise, dit-il, plus terrible que d'habitude. On a préféré te prévenir. » Artus ne se fit pas prier et suivit Tibère dans les galeries de la haute école, que ses vacances exceptionnelles avaient transformées en un palais de jouissance. Il traversa des cours où des jeunes gens enivrés se dégrisaient à l'eau des fontaines, des couloirs où des danseurs épuisés avaient trouvé le sommeil à même le sol. Tibère avait la voix pâteuse et les yeux injectés de sang, mais la frayeur lui avait fait l'effet d'une douche froide et il marchait droit. Par un raffinement d'insolence, Nox avait choisi pour théâtre de ses débauches la salle de poésie. Artus fut choqué en entrant par la transformation dérisoire du lieu. La plupart des jeunes gens étaient débraillés, lourdement endormis ou malades. Les sofas dérangés semblaient souillés et le sol était jonché de taches poisseuses et de reliefs divers. Les magnifiques plantes grasses qui ornaient la pièce étaient renversées ou abîmées. « N'avez-vous pas d'autre conception de la jouissance ?» lâcha Artus d'un ton méprisant. Tibère ne répondit pas et lui désigna Nox. Le jeune homme était nu et recroquevillé contre le dossier d'un sofa. « Cela fait longtemps ?» demanda Artus. « Plus longtemps que d'habitude, articula Tibère. Peut-être 20 minutes. » Artus fronça les sourcils. 20 minutes représentaient un temps record pour Nox, qui n'avait jamais réussi à se débarrasser de Sornard plus de quelques minutes, à moins que ce dernier ne fît exprès de l'abandonner, pour exercer sa surveillance ailleurs ou pour tendre un piège. Artus préféra ne prendre aucun risque et ferma totalement son esprit. « Nox, dit-il en prenant la main de son frère, c'est moi, Artus. »« Artus, articula Nox. Parti ? » Artus fit signe à Tibère de s'éloigner, ce qu'il fit, habitué à cette procédure, qu'Artus avait instituée depuis longtemps en cas de crise. « Non, je suis là, tu dois te tranquilliser. » Et ne plus boire autant, cela n'est pas bon pour tes crises. » Nox regardait Artus sans comprendre. Mais Artus sentait que Sornar était là, le guettait, et qu'il devait lui donner le change. « Regarde dans quel état tu t'es mis, et dans quel état tu as mis la salle de poésie. » Nox avait l'air effrayé maintenant, mais Artus lui serrait la main avec force. « Je suis là, Nox, je suis là pour t'aider, je ne t'abandonne pas. Tu ne comprends pas tout quand tu es en crise, mais ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de comprendre, juste de me faire confiance. » Nox parut se rasséréner un peu. Il répondit à la pression de la main de son frère et cessa de parler. Artus savait que le langage n'était pas le plus important pour Nox. La présence, la chaleur, le contact physique comptaient tout autant. Il demeura donc ainsi pendant un long moment, près de Nox, lui murmurant des paroles apaisantes au milieu de longs silences. Nox, lui, ne disait plus rien. Ce ne fut qu'au bout de 30 autres minutes que le spasme attendu arriva. Artus avait les yeux plongés dans les yeux de son frère et observa avec effroi le changement d'expression qui parcourut les iris. « Par l'esprit, Nox, tu dois vraiment m'écouter cette fois et arrêter ces excès. Tu as raison, petit frère. » Sornar se dégagea de l'étreinte d'Artus et prit une profonde inspiration. « Ça va mieux, je te remercie. Comme d'habitude, tu es là pour moi. C'est ce que font les frères. Je sais que tu ferais la même chose pour moi, mais fais attention tout de même, cette crise a duré plus longtemps que les autres. C'est vrai ? Je ne m'en suis pas rendu compte. Je n'ai pas de souvenir de ces crises. Près d'une heure, cette fois. Je me suis inquiétée. Veux-tu qu'on prévienne quelqu'un ? Va me chercher Daphnae, s'il te plaît. » Artus hésita. « On ne peut pas envoyer Tibère ?» Nox jeta un coup d'œil à son âme damnée. « Il n'a pas l'air en très grande forme, Artus, contrairement à toi. » Artus hocha la tête et s'exécuta. Il passa sans bruit dans la salle où dormait encore Gretel et s'habilla. L'air frais de la ville lui fit du bien, et il put, adaptant sa respiration au rythme de sa marche, se purger de la tension qu'il avait ressentie lors de la crise de son frère. Un sentiment de culpabilité l'habitait, comme si cette longue absence de Sornar était la conséquence de sa propre décision de donner la priorité à Gretel pendant ces quelques jours. C'était étrange, il aurait dû être content qu'il relâchât son emprise sur Nox, mais tout ce qui contrevenait à l'habitude, tout ce qui sortait du train ordinaire des choses, lui était source d'angoisse. Tout manquement à la routine pouvait signifier la mise en marche d'une action, quelle qu'elle fût, et l'inquiétait. Il lui semblait vivre en sursis et redoutait le moment où l'histoire en marche s'abattrait, tel un couperet, sur tout ce qu'il avait essayé de construire depuis son enfance. Il ne trouva pas Daphnae chez elle, malgré l'heure matinale, mais au théâtre, où elle était en train de s'époumoner contre une jeune fille qui devait lui donner la réplique. « Mais enfin, ce n'est pas compliqué. Ton personnage ressent à la fois de la peur et du courage. Les deux doivent se ressentir dans ton attitude. C'est une émotion de base, ma fille. Si tu ne sais pas jouer ça, tu ne sauras jamais rien jouer. » La jeune fille, qu'Artus connaissait de vue, était sur le point de pleurer quand Daphnae l'aperçut. « Allez, ça suffit, » dit-elle, un peu radoucie. « Je sais que tu n'as pas dormi. Tu peux arrêter de pleurnicher et aller rejoindre tes camarades. » Peu de temps après, elle et Artus se trouvaient dans sa loge, porte close. Elle entreprit de se changer sans la moindre pudeur devant lui, ce qui le mit mal à l'aise. « Eh bien, parle, je t'écoute » dit-elle avec une pointe d'impatience. « Nox vous demande de venir auprès de lui à l'école. Il a eu une crise et souhaite votre présence. » Daphnae s'assit et s'occupa de tresser ses cheveux roux. « Que sais-tu exactement des relations que j'entretiens avec ton frère ?» Artus hésita. « Je sais que vous êtes amants et que cette idée vous a été suggérée par mon père. Et vous, que savez-vous ? » « Ce que ton père a bien voulu me dire, qu'il soupçonnait Nox de sédition. » Elle était prête et ouvrit le chemin pour se diriger sans attendre vers l'école. Elle marchait vite, sans faire aucun effort pour rester à sa hauteur, et Artus avait l'impression d'être un enfant qui trottinait à ses côtés. « Tu pourras dire à ton père que gagner sa confiance n'est pas facile, mais je ne désespère pas d'obtenir bientôt des informations probantes. Je ne voudrais pas te choquer, car après tout, nous parlons de ton frère, mais il me fait surtout l'effet d'être un enfant insolent et cruel. » Je ne suis pas sûre qu'il ait d'autre visée que d'affirmer sa puissance et de se rendre le maître de tous ceux qui l'entourent. Et y parvient-il ? Si tu parles de moi, tu me connais bien mal. Si tu parles de sa petite cour d'enfant, évidemment c'est autre chose, mais ces gens-là ne l'intéressent pas. Qu'est-ce qui l'intéresse ? Pour ce que j'ai pu observer, le sexe, l'alcool, le combat et la domination. Il a des connaissances vastes sur tous les sujets, et pourtant aucun ne semble l'intéresser particulièrement. La politique pas plus que tous les autres. « Je vous remercie, » dit Artus à l'entrée de l'école. « Je ne vous accompagne pas, il se trouve dans la salle de poésie. Essayez simplement de faire attention à tout ce qui sort de l'ordinaire. » Daphnae acquiesça, puis lui fit un salut assez grave, et il crut l'avoir modifié légèrement sa démarche et son port de tête pour faire son entrée en scène. Lorsqu'il entra à nouveau dans la salle d'études qui leur servait de chambre, rien n'avait changé, si ce n'était la lumière qui avait perdu de sa mystérieuse poésie. Rien n'avait changé, mais l'instant avait fui. Le fardeau pesait à nouveau sur ses épaules, et il ne lui semblait plus si facile de voir, à travers les voiles de ses angoisses, la simple nudité de vivre. Gretel s'éveilla cependant, et son sourire et ses bras tendus l'emplirent de tendresse. « Tu as l'air si préoccupé ce matin, notre état de grâce a-t-il déjà pris fin ?»« Je ne le voudrais pas, Gretel, pour toutes les oboles du monde, mais il y a une chose dont il faut que je te parle. » Elle se redressa et le dévisagea. « Tu as un secret bien lourd, et je sais qu'il ne me concerne pas. »« Tout de moi te concerne, Gretel. Je ne peux pas faire obstacle à cette transparence entre nous. »« Mais tu as promis à quelqu'un de ne rien dire. »« À mon père. Alors tu dois lui en parler d'abord. »« Je voudrais ne jamais sortir de cette salle, et t'habiter pour toujours. » Elle sourit et l'attira contre elle. « Regarde, dit-elle, cette fenêtre ogivale avec ce maillage de pierre, ces deux colonnes, les fleurs sculptées de leurs chapiteaux, les pans inclinés du plafond qui donnent l'illusion d'une grande profondeur, la mosaïque du sol avec ses losanges irréguliers, et le coin de ville que l'on aperçoit par la fenêtre, cette volée de marches, ce lierre sur la façade de la villa, et ce petit cheval d'albâtre qui orne le centre de la cour. « Je les vois, » dit-il. « Fixe-les dans ta mémoire pour revenir dans cet instant. Je t'y rejoindrai toujours, éternellement jeune et amoureuse. L'avenir ne peut pas nous ôter le passé. » « Non. » Il sourit apaisé. Le miracle de l'existence miroitait comme un éclat de verre. Un instant assombri par les nuages filants, il se remettait à luire quelques instants après, à la caresse inattendue d'un rayon. « Il faut vivre l'instant dans la simple nudité de vivre, » articula-t-il à voix basse avant de l'embrasser. Et cette parole dont il avait rêvé, cette parole sans réponse se grava indélébile sur la matière composite de son souvenir, qui rassemblait à la fois la forme d'une croisée, la qualité d'une lumière, un rythme cardiaque qui s'accélérait délicieusement, la saveur d'un baiser, et ce sentiment de plénitude aérienne qui lui faisait mépriser tout ce qui adviendrait ensuite.